RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver.
Pour la suite de cette matinale, j'accueille Mirko Rocha. Salut Mirko.
Salut Yago.
Plaisir de t'avoir à cette antenne et puis plaisir de te revoir sur scène avec un spectacle qui s'appelle En toute discrétion.
Exactement. Enfin.
Un spectacle donc qui revient sur les planches, qui aurait dû arriver il y a quelques temps déjà et que tu as enfin le plaisir de tourner. De quoi ça parle En toute discrétion ?
Alors, c'est toute une galerie de personnages. Le premier spectacle, c'était aussi des personnages avec un peu de stand-up à l'intérieur. Mais là, vraiment, on a voulu faire un spectacle que de sketchs, que de personnages complètement différents. Il y en a certains qui se ressemblent et qui se retrouvent un petit peu dans le spectacle, mais c'est pas les mêmes que le premier spectacle Super Mal. Et vraiment des personnages qui gravitent autour de l'idée de s'exposer, de se montrer, d'exister, de revendiquer quelque chose, comme des influenceurs sur Internet, comme une jeune mariée qui organise son futur mariage, comme un viking qui se sent pas à sa place sur les champs de bataille et avec ses collègues. Donc c'était vraiment prendre toutes ces idées-là. Et puis derrière ça, évidemment, ben, on y retrouvera des petits messages, des tournées ou des petites morales, j'ai envie de dire, qui font qu'on retrouve peut-être plus moi, l'idée de pourquoi moi je suis allé sur scène, pourquoi je me suis exposé, pourquoi je suis allé chercher le regard des autres ou l'approbation de mes pères ou de mes amis ou que sais-je encore. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée du spectacle. Ça permet après d'avoir des univers très différents, puis tout un tas de choses où les gens peuvent y retrouver soit des choses qu'ils connaissent, soit des choses qu'ils ont vécues. Donc c'est large, c'est pas tout d'un coup un spectacle où du début à la fin on n'a qu'un seul sujet ou qu'un seul personnage qui raconte. Et là, ça permet vraiment d'avoir un amusement général et surprenant à chaque nouvelle scène.
On imagine bien que ta jeune mariée ou le viking sont des personnages de ta création. Est-ce que ces influenceurs sont des personnages qu'on peut reconnaître ?
Alors, je pense que ceux qui traînent beaucoup sur Internet, sur Instagram, vont certainement y voir des choses qu'ils ont vues. C'est pas forcément des gens de mon entourage, ni forcément des amis, mais on prend, quand on fait de l'humour d'observation, en prenant des choses un peu populaires, on va dire, on est toujours inspiré par des gens, par des manières qu'on voit à gauche à droite. Donc là, oui, il y a je pense que dans les influenceuses, que ça soit celle qui fait de la cuisine et qui parle de nourriture ou une influenceuse de produits de beauté, je crois que voilà, elles ont un peu des mimiques et des tics, salut, aujourd'hui on va se maquiller, tout ça. Et je crois que voilà, c'est rare qu'on trouve une femme qui a à l'inverse de ce personnage-là dans les influenceuses, quoi. Elles ont un peu une sorte de ligne de conduite, j'ai envie de dire. Et voilà, je pense que chaque personne, et c'est marrant parce que c'est des sketchs où tout d'un coup il y a beaucoup les jeunes qui rigolent, des fois un peu moins les personnes très âgées, parce que tout d'un coup ils ont peut-être pas forcément ces références là mais ils vont rire de certains gags qu'il y a en rapport avec les influenceuses, parce qu'une fois qu'on a compris que la nana se maquille, il y a tout un tas de choses derrière que tout le monde a comme référence.
C'est ça, il y a un côté culturel qui peut-être va faire une petite différence sur le tempo de réaction, mais après la situation tourne à l'absurde et évidemment elle fait rire tout le monde.
C'est ça. Puis moi, c'est ça qui me permet de parler à tout le monde dans l'histoire. C'est que j'ai bien conscience que peut-être tout le monde n'a pas la référence Instagram, story, etc. Mais ça reste un personnage qui raconte des histoires que j'ai voulu drôles finalement. Et puis après, les jeunes, ils vont y voir effectivement les attitudes qu'il y a sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et c'est ça qui m'amuse à la fin de cette histoire, quoi.
Je crois savoir que sur ce spectacle, t'as pas travaillé seul.
J'ai pas travaillé seul, non. Bah, comme souvent sur tous les spectacles, le premier c'était Christophe Bugnon qui m'avait mis en scène, avec qui on avait regardé l'écriture. Et sur celui-là, c'est Antonia de Randinger, qui est une comédienne, improvisatrice, humoriste française, strasbourgeoise, plus exactement.
Qu'on avait notamment vu dans On ne demande qu'à en rire, pour ceux qui avaient vu passer cette émission il y a quelques années.
Elle avait fait les belles années d'On ne demande qu'à en rire. Elle était même dans les meilleures de sa génération, quoi. Elle avait vraiment bossé avec Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère, etc. Antonia de Randinger, moi, je l'ai découvert je savais déjà qui elle était, mais je suis allé voir son spectacle à Mort Sourire. Là, c'était marrant. C'était d'ailleurs l'année où moi, je jouais le mien super mal. Elle jouait le sien.
Okay.
Pas dans la même salle. Mais, j'ai découvert son spectacle là. Ça m'a complètement scotché tellement elle joue dans le détail. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et on s'est rencontrés après à l'espace où les artistes mangent. Et elle, spontanément, m'a donné son numéro en me disant « Ah ben, un jour, si tu viens en France, contacte-moi. » Et c'est moi, après, qui lui ai reproposé finalement savoir si elle avait déjà mis en scène des spectacles, si elle était intéressée de travailler avec moi. Elle l'avait jamais fait pour d'autres humoristes, mais elle m'a dit, écoute, faut que je vienne te voir une fois. Elle est venue me voir en Suisse et c'est comme ça que finalement elle m'a dit, écoute, on peut peut-être faire quelque chose. Donc on a préparé ce nouveau spectacle. Enfin, moi, je l'ai écrit vraiment pendant une année avant. Puis je suis venu avec tout mon matériel, je dis voilà tout ce que j'ai écrit. On a passé déjà une semaine à Grenoble où elle était dans un festival d'humour et moi j'avais loué une petite maison chez des gens et en fait on travaillait une partie de la journée, le soir elle allait faire le festival où je l'accompagnais, mais on travaillait finalement la journée déjà à beaucoup regarder l'écriture et puis après on a travaillé plusieurs sessions de 3-4 jours à Strasbourg dans un petit théâtre et c'est très sympa de travailler avec Antonia parce que j'étais entre chez elle et chez une de ses copines pour dormir. On se déplaçait à vélo dans les rues, on allait manger, j'ai rencontré ses enfants, sa famille, enfin c'était vraiment très très sympa. Et Antonia, c'est une femme qui est pleine de bienveillance, pleine d'idées, parce qu'elle a quand même fait 3 spectacles, elle a beaucoup travaillé, elle est aussi auteure, etc. Elle est aussi très exigeante, elle est très exigeante avec elle-même, mais finalement elle l'est aussi avec les gens avec qui elle travaille. Donc il y a des fois où moi je me dis oh là là, je dois être nul, ça doit pas aller, etc. Mais finalement elle me poussait à aller plus loin dans le jeu, dans le fait de me détacher de ce que je suis moi pour présenter autre chose sur scène. Et c'était très intéressant parce que moi, je cherchais cette évolution-là. Et je crois que, à quelque part, avec les résultats du spectacle, on y est, en tout cas en partie, même si j'évolue encore, puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, je voulais pouvoir avoir un spectacle plus émouvant. Elle me disait, par exemple, il y a des moments du spectacle où tu as le droit que ça ne soit pas drôle, en fait. Tu dois vivre avec cette idée que le public rit pas s'il y a un message derrière ou s'il y a une situation qui ne l'est pas.
Oui, partir plus sur l'émotion et moins sur le sketch.
Ouais, parce qu'en fait, quand on est humoriste, on a un espèce de devoir de rire toutes les 30-40 secondes, donc on cherche tout le temps à optimiser, booster, rajouter une blague, machin, même dans les personnages, hein, que ça soit le stand-up, etc. Encore plus le stand-up, parce qu'il y a vraiment du raconté. Tandis que là, le personnage, on a des fois des mimiques, des attitudes qui font rire, mais on est toujours à la recherche du rire. Et tout d'un coup, si ça rigole pas pendant une minute ou deux, on rentre presque en panique en se disant « Les gens rient pas, ça y est, je vais avoir des blancs, je m'en sors plus, etc. » Et on doit se réconcilier avec ça parce qu'en fait, le personnage raconte autre chose et ça amène des respirations dans le spectacle. Et la fin du spectacle, je la voulais touchante. Je voulais pas finir sur un truc un peu brut ou très drôle ou comme ça. Donc, je voulais une fin qui soit un dernier personnage qui soit et un peu drôle et touchant, quitte à essayer de tirer un petit peu la larme à l'œil au public. Et de ce que je vois jusqu'à maintenant, je crois que j'y suis arrivé. Donc c'est très étrange d'avoir une salle dans le silence où on entend des petits mouchoirs et des petits nez qui respirent comme ça, mais puis d'avoir après les lumières qui s'allument, puis de voir des gens qui s'essuient les yeux, on se dit ah la vache, j'ai réussi à faire ça. Donc c'est un beau cadeau en fait qu'Antonia m'a fait en m'apprenant ces choses là quoi.
Ce spectacle était prévu pour début 2020. Par la force des choses, il n'a pas pu être joué autant qu'il l'aurait dû. T'as quand même pu reprendre un peu la scène depuis quelques temps maintenant. Comment sont les retours? J'imagine qu'il n'y a pas que des petits mouchoirs.
Ah, il n'y a pas que des petits mouchoirs. Alors, le but, c'est qu'il y ait des rires, hein, parce que sinon, si on fait une heure... D'ailleurs, le spectacle est encore long, parce que comme je le rôde vraiment maintenant, c'était très dur de le rôder pendant 2 ans en faisant une scène tous les 6 mois à peu près. Donc là, je commence à le booster, à me dire il y a des petites parties que je vais enlever. Mais là, quand je joue vraiment correctement le spectacle, lentement et tout, il dure bien 1h45, ce qui est quand même encore long.
Oui, tout à fait.
Il devrait faire 1h10, 1h20, puis bien poser si j'ai le temps, et faire 1h30. Voilà, mais normalement, il devrait faire 1h20. Donc il y a de la matière qui sera encore enlevée, mais j'attends de voir tout ce qui se valide d'une salle à l'autre et d'une région à l'autre, même si c'est les mêmes publics. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ça permet tout d'un coup de dire ah ça je l'ai mieux joué, ça marchait mieux, donc ça a rigolé. Donc après, moi je me cale sur des trucs comme ça. Mais il y a 2-3 sketchs qui sont un petit peu trop longs, donc il faudra que je fasse un peu le ménage dedans. Mais les gens me disent non, faut pas couper, il y a tout qui est bien. Donc ça déjà c'est chouette.
Bah oui.
Qu'au bout d'1h45 ils aient toujours pas trouvé le temps long, ça c'est chouette aussi. Et puis moi je le vois, ben finalement à ce que les gens m'écrivent en commentaire après le spectacle. Le deuxième spectacle il est toujours attendu par des gens, puis nous il nous met une pression assez folle parce qu'on se dit mon Dieu si je les déçois après avoir fait du mieux que je pouvais la première fois.
Ah bah il y a une certaine confirmation.
Donc on va chercher une sorte de confirmation, puis quand on voit ce qui se passe, puis que justement on a poussé le curseur du côté acteur, etc., puis d'avoir été dans le spectacle, clairement il y a d'autres choses que j'ai tenté de faire, comme une sorte de slam rap à un moment donné, comme une imitation de Fanny Ardant, etc. Je me suis dit voilà, si j'arrive encore à convaincre les gens avec ces petites choses là je rajoute des cordes entre guillemets à mon arc et j'avais besoin de ces réponses là et donc le retour est toujours bienveillant, me surprend toujours quoi. À chaque fois je me dis ah oui j'ai droit à ces commentaires là. Moi je trouve toujours ça fou hein, j'ai toujours de la peine à y croire, mais non, comme on dit, il faut prendre ce que les gens font de nous.
Mais bien sûr,
toujours c'est le public qui décide hein. Le jour où il vient plus dans les salles, il y aura des choses à revoir ou à arrêter hein, tant qu'il y a ces commentaires là et que les gens viennent, eh ben on continue.
Tu as bien raison, et vous imaginez bien que si on en parle aujourd'hui sur RNV, c'est bien que Mirko sera à proximité prochainement. Il sera donc vendredi, ce 11 novembre, à l'Azimut d'Estavayer-le-Lac, donc en terre fribourgeoise, mais à quelques kilomètres d'Yverdon, à la Tarentule de Saint-Aubin-Sauge, le 26 novembre, c'est en terre neuchâteloise, mais encore une fois, à quelques kilomètres d'Yverdon. Yverdon, non, tu vises mal. Hein.
Alors les gens me disent, tu viens quand Yverdon? Je dis, mais je suis deux fois à côté. Donc effectivement, j'ai un problème de visette. Non, c'est toujours le souci de trouver des salles ou d'être programmé. En plus, on sort d'une période où on sent bien que toute la culture va être poussée pendant 2-3 ans à attendre des tours. Donc c'est ça qui est compliqué. On adorerait être partout, mais je me dis aujourd'hui, Estavayer, Saint-Aubin, ça permet de faire venir une petite jauge. Ça va faire un peu le bouche à oreille. Et puis après, on verra où le destin me pousse.
Mais il poussera en tout cas le 16 décembre au pressoir à Launay pour terminer l'année. Et puis tu recommenceras l'année au mois de février, si je ne m'abuse, au Théâtre Comico de Sion.
Début février à Sion. Il y aura une date au Casino du Brassu à la Vallée de Joux.
Okay.
Il y aura peut-être une date à la Chaux-de-Fonds normalement. Ça, c'est encore en négociation. Et puis un truc que je peux encore pas dire, mais une grosse surprise au mois de mai du côté de Neuchâtel.
Et tu viendras nous en parler quand tu auras la possibilité de le faire. MircoRocha.com pour plus d'infos. Le spectacle s'appelle En toute discrétion. Merci.
Mais merci à toi, Yago, et venez vous amuser, vous divertir dans cette période où on a tous besoin de ça, en fait.
Absolument.
www.radionv.ch